Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Daniel Martin et Philippe Chevillet se font face à notre sommaire Topaz de Hakan Gündey aux éditions Galade et Les Maraudeurs de Tom Cooper chez Albin Michel. Nous évoquerons aussi plus rapidement Jour de miel de Eshkol Nevo chez Gallimard et la pièce de Jonas Carlson chez Actes Sud. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner ce soir grâce au jeu de la dispute, des DVD du film Mad Love in New York de Josh et Benny Safdie, distribué par Carlotta. Enfin, nous avons rendez-vous avec la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, qui est cette semaine l'invitée de la dispute. Et nous ouvrons cette émission en retrouvant un auteur, le Turc Hakan Gündey, dont nous avions parlé le 25 septembre dernier dans la dispute à propos de son roman « Encore », qui allait remporter quelques semaines plus tard le prix Médicis étranger, avec cette histoire de cette enfance sans état d'âme, passeur de migrants, qui nous avait fait froid dans le dos, avec Topaz, toujours édité chez Galade. Hakan Gündey va nous faire rire jaune, on va dire, en mettant en parallèle tourisme de masse et diplomatie, escroc des bazars et relations conflictuelles entre Orient et Occident, singulièrement entre Allemagne et Turquie. And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Bon, je l'aurais bien laissé en entier, cette chanson de David Bowie, dans les paroles de ce morceau « The Man Who Sold the World ».« L'homme qui a vendu le monde » ouvre le livre d'Hakan Gündey, « Topaz », sous-titré « Tout compris », publié chez Galade Éditions dans une traduction de Jean Desca, et de vente en tout genre. Il va être beaucoup question dans ce livre, et on retrouvera la chanson de David Bowie à la toute fin. Daniel Martin, pour commencer.
Écoutez, moi c'est un auteur que j'ai découvert à l'occasion du prix Médicis, je ne connaissais pas avant. J'ai été assez bluffé par une énergie d'écriture, une force d'écriture. Et en même temps, j'ai des réserves par rapport à cet auteur. Je trouve que c'est pas un auteur encore pleinement à maturité. C'est-à-dire c'est un auteur turc qui n'est pas du niveau de Pamuk ou de, des gens comme ça. Mais par contre, il y a une énergie très très puissante. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a une vision du monde Je dirais, pour être très schématique, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'autre côté de la frontière. Il y a des auteurs comme ça qui sont très intéressants pour ça, c'est-à-dire d'inverser pas mal de choses. Et sur Hakan Gündayi, donc encore, c'était cette question de la migration vue du côté des passeurs. Avec on suivait un personnage, je crois qu'il avait 9 ou 10 ans quand on le rencontrait, jusqu'à la maturité, avec ce garçon qui était également dans le commerce, en quelque sorte, d'une chair et d'une matière particulière, qui sont les migrants, avec lequel il se comportait relativement mal, jusqu'à avoir une conscience de ça, ce qui était une bascule. Et à Hakan Gündayi, il y a quelque chose d'intéressant. Je parlais de Pamuk, il est comme Pamuk, c'est-à-dire comme souvent les Turcs, c'est-à-dire il écrit entre deux continents, deux cultures, deux formes de littérature. Lui, pour lui, c'est très clair, il le pose entre les pauvres et les riches, au fond. Mmh. Et qu'est-ce que ça crée entre ces deux pôles de circulation, à la fois d'argent, d'envie, de désir, de choses comme ça. Et je trouve que Topaz, c'est un livre, au fond, qu'on peut considérer comme beaucoup plus léger. Topaz, c'est un grand centre qui est dans une ville du sud de la Turquie qui s'appelle Antalya, qui est une ville très touristique. Et c'est un grand centre pour touristes dans lequel on doit faire venir un maximum de touristes pour acheter de la pacotille à très fort prix, mais une pacotille qui est présentée comme étant un véritable trésor, résultat d'un travail artisanal, etc., etc. Et tout est faux. Absolument tout est faux et tout dans les rapports humains sont complètement faussés. Et on a donc ce rapport entre les vendeurs et les clients. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, dans ce roman comme dans le précédent, c'est au fond, derrière tout ça, à un moment dans les livres apparaît quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité. C'est qu'en fait, tous ces gens pourraient avoir quelque chose de plus harmonieux. J'aime assez cette notion-là.
Je souscris à beaucoup de choses, j'y reviendrai dans un instant, mais d'abord on va écouter les premiers avis de Philippe Chevillier sur ce Topaz d'Hakan Gündayi.
Moi aussi j'ai été impressionné par le livre, d'abord parce que je pense que c'est un des livres que j'ai lus, des romans que j'ai lus, de pamphlets sur le tourisme, qui est un des plus forts. Je pense à la plateforme de Houellebecq d'une certaine façon, ça m'a renvoyé à ça, bien que ça n'ait rien à voir, mais qui a vraiment une façon de démonter le système, et en plus où évidemment... tout le monde se sent concerné des deux côtés, de l'Orient et de l'Occident, parce que les touristes d'un côté, on a tous été touristes, et effectivement, les gens qui vivent là-bas et qui vendent de leur commerce, ça met en question beaucoup de choses, donc j'ai trouvé ça assez passionnant. J'ai bien aimé aussi la forme, puisque c'est presque une forme classique d'unité de lieu pendant tout un roman. On a quelques échappées, mais ça se passe dans le même endroit, la même journée, avec une vente qui devient de plus en plus historique, une progression. Et à la fois, donc, il y a cette mise en abîme de ce procédé, de ce processus de vente, avec tous ces personnages qui sont assez bien, qui sont tous assez bien décrits, qui sont tous assez, à la fois très attachants. C'est ce que vous disiez, il y a une humanité en même temps, ils sont tous complètement morts en dedans, en vide. Le personnage principal, Kozan, on en reparlera, mais il est vraiment intéressant à cause de ça. Et ça nous offre donc cette mise en abîme. Il y a un côté dans la forme qui est très fort. Et puis, au niveau de l'intrigue, c'est aussi, on n'ira pas à la fin, mais c'est vrai que c'est quand même une belle mécanique, quand même, la fin, qui permet de noircir encore plus la vision du monde qu'a notre auteur, Hakan Gündayi. Et moi, j'ai été touché par tout son personnage principal, qui est en fait dans un vide existentiel, qui a une histoire d'amour qui s'est mal terminée. C'est un fils de diplomate, comme l'auteur. On y voit des espèces de correspondances. Alors moi, je vais faire aussi la réserve de Daniel sur l'écrivain pas encore assez mûr. C'est vrai que par moments, je trouve notamment qu'il en fait un petit peu trop dans le côté philosophique. C'est-à-dire que on est emporté par le style, et par moments, il fait des aphorismes, il en fait un petit peu trop. Et puis on se perd un petit peu aussi dans les calculs, dans les ventes par moment, mais quand même c'est un livre très fort sur le métier de vendeur et sur le tourisme.
Ah oui, c'est vrai que c'est un drôle d'auteur, Hakan Gündayi. Moi, pareillement, j'ai lu que ces deux livres, hein, Encore et Topaz, avec, oui, des réserves. C'est-à-dire, ce sont des livres que j'étais très heureux de lire, enfin, qui ont de véritables intérêts, assez différents d'ailleurs, l'un et l'autre. Mais, et en même temps, on se dit, voilà, c'est pas un grand livre, c'est pas encore un grand écrivain, c'est pas. Mais ça se joue pas là, et je suis sensible aussi à cet argument de l'énergie d'Hakan Gündayi. Alors peut-être que du coup, il écrit peut-être trop vite. C'est peut-être un peu bête de dire ça comme ça, et que voilà, il y a peut-être moins de maturation, de travail vraiment sur la matière. Et en même temps, ça a la qualité de ses défauts. En même temps, ce type d'écriture, c'est-à-dire que effectivement, il nous emporte, effectivement, il nous emmène. Encore, il nous emmenait vraiment très au fond du gouffre mental de ce petit garçon, puis jeune homme, qui faisait vraiment des choses absolument terribles avec les migrants. Et en même temps, là, en changeant d'angle, parce que finalement, le Syrien était l'exploité du Turc exploitant, et là on est effectivement du côté du Turc qui essaye de se payer l'étranger, et en même temps dans cette relation que à peu près tous les gens qui ont fait un tout petit peu de tourisme connaissent, c'est-à-dire qu'on est là à marchander, mais comme les prix partent 100 fois plus haut qu'ils ne devraient, on a toujours l'impression de faire une bonne affaire, alors que évidemment les choses sont plus complexes que ça. Mais je trouve que voilà, il y a cette énergie, le côté huis clos du bazar, effectivement, fait que ça nous entraîne. Et comme Philippe Chevier ne l'a pas dit, je pourrais dire que c'est un livre qui fait tourner les pages, pour parler en français. On a vraiment envie de continuer, quoi, parce que il y a quand même une énorme arnaque, quoi, qui se déplie tout au long du livre. Enfin, il y en a plusieurs, mais.
Et qui est uniquement une arnaque consentie.
Oui, parce c'est que, ça. Enfin, oui, voilà, c'est ça, Daniel Martin.
Ce rapport entre acheteur et vendeur, chez l'acheteur, c'est, par exemple, la question des enfants. Dans ce livre, on voit très bien que des enfants sont mis en avant, qui sont en fait des enfants pratiquement esclavagisés, dont on dit, mais voilà, il fait son apprentissage, bon, des choses comme ça. Donc, forcément, le riche occidental va avoir tendance à mettre une pièce supplémentaire en pensant faire une bonne action. Mmh. Et je trouve que, enfin, ce qui est central dans le livre, c'est cette notion de commerce et d'échange, la circulation des désirs, comment on suscite le désir, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, ce désir, il est quand même multiple, parce que ces vendeurs savent très bien qu'auprès des femmes, ils ont un certain... C'est vrai que les personnages masculins occidentaux ne sont pas tous des canons dans ce livre.
Vraiment.
Et les vendeurs, on les suppose plutôt attirants. Donc, cette question-là du désir sexuel, ça compte aussi dans l'appréciation.
Sexuelle.
Hein, je trouve ça extraordinaire. Et en fait, il suffit d'avoir voyagé dans des pays d'Afrique du Nord ou en Turquie, etc. On sait très bien que tout ça joue là-dessus. Et comment ne pas faire autrement ? Enfin, je veux dire, c'est aussi cette notion d'exotisme, par exemple, de dépaysement exotique, qui fait que pour l'occidental, il y a quelque chose. Enfin, il y a toute une littérature. Puis bon, c'est ce que reprend aussi d'une certaine façon Mathias Sénard. Voilà. Mais
la circulation du désir, oui.
Ouais. Oui, c'est
multiple circulation.
Bah, la notion de commerce n'est pas que l'échange de biens et enfin. Je trouve que tout de suite, on est dans une société où on pense que le commerce est exactement ça, un échange de biens et d'argent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, fort heureusement. Je veux dire, quelqu'un qui va dans un commerce, il fait plus que d'acheter. Le brin de conversation qu'il a peut nourrir aussi autre chose, quoi.
Philippe Chevillier ?
Oui, d'ailleurs, le touriste n'a pratiquement pas de sexe. C'est-à-dire que le vendeur peut, s'il se rend compte qu'il est face à un client potentiellement homosexuel, il va tout d'un coup essayer de le draguer pour essayer de faire sa vente. Mais il y a une espèce de désir du touriste, effectivement, qui représente le désir de la vente, le désir d'une vengeance, parce qu'il y a un côté, quand même, c'est à la fois un commerce et c'est une guerre qui nous présente, une guerre entre,
oui.
Et comme vous disiez, consenti. Les gens qui viennent, ils viennent pour perdre, en fait, d'une certaine façon. Et c'est, il y a le soleil, il y a le, en plus, c'est ce qui est, on a dans notre imagerie le grand bazar d'Istanbul. Là, on est à Antalya, c'est vraiment la ville touristique par excellence, bétonnée, avec donc il y a plus de poésie du tout, quoi. On est vraiment, et comme vous disiez, on pourrait être émerveillé par les bijoux, mais c'est de la pacotille, tout est faux. Donc il y a une dureté dans ce livre, une violence assez incroyable. Dans cette violence, je crois que c'est un mot qu'il aime bien.
Cette question de voir le monde de l'autre côté, un auteur qui est un peu oublié maintenant, qui a donné une trilogie absolument formidable, qui s'appelle Nourredine Farah. Dans cette trilogie, il y avait Don, Territoire. C'était à l'époque où on apportait des sacs de riz aux Somaliens. Et c'était le monde perçu du côté de la personne à qui on apporte un sac de riz comme ça. Cette violence, à la fois ce mépris, cette violence, et puis en même temps, effectivement, du sac de riz, on peut en avoir besoin. Et je trouve que c'est une œuvre assez puissante, assez forte, enfin qui est d'un autre tempérament que Kakan Gündayi. Mais c'est ce que je trouve assez passionnant chez lui, c'est cette délocalisation du regard comme ça.
Vous vouliez parler du personnage.
Qui au fond. Au départ, on le voit comme l'espèce de personnage presque comique avec son bagou, il est irrésistible, Cordain. Et en même temps, au fur et à mesure que le livre avance, on se rend compte de la détresse qu'il y a en lui. Enfin, c'est presque un personnage romantique. Encore une fois, lorsqu'il raconte la façon dont il est fils de diplomate, il a été viré d'Europe pour une histoire de femme et de drogue. Mmh. Et on voit qu'il n'a plus aucune raison d'être, de vivre, d'aimer, et que tout est rempli, que le vide, il le remplit. Accessoirement, quand il a des moments de repos, par un peu d'herbe et quelques prostituées. Mais sinon, le reste du temps, c'est la vente uniquement. Et dans la vente, en même temps, il y a des passages quand il se fait conteur et quand il invente des histoires extraordinaires pour convaincre. Et là, ça devient poétique. Le vendeur devient un poète ou devient un conteur.
Quand vous dites fils de diplomate, c'est une façon de le situer socialement. Hein. Mmh. Bon. Et je trouve que, par exemple, pour revenir au livre précédent sur les migrants, en fait, on fait en sorte d'oublier complètement leur position sociale d'origine. Parce que dans les migrants, on a des gens qui sont
plutôt
médecins,
des classes moyennes et supérieures,
architectes, etc., etc. À l'époque du Rwanda, c'était pareil. Mmh. Là, c'est pareil. Enfin, on oublie très, très souvent ça. Et dans ces flux, effectivement, cette perte d'identité, il y a quelque chose comme ça qui est très intéressant.
Avec aussi cette histoire, hein, je l'évoquais au tout début, des liens particuliers entre Turquie et Allemagne, avec toute cette génération envoyée travailler, puis renvoyée dans son pays, avec la difficulté de se situer aussi.
Turquie et Allemagne, c'est quand même une longue, longue histoire. Mais on retrouve ça chez Pamuk, on a des immigrés turcs en Allemagne, enfin on a toute cette histoire aussi.
Ouais. Mais là, on les voit revenir à Antalya et essayer effectivement de trouver cette place-là. Bon, ben voilà, beaucoup de raisons de lire Kakan Gündayi et Topaz, qui paraît donc chez Galahad dans une traduction de Jean Desca.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Tom Cooper avec ce livre Les Maraudeurs. Nous retrouverons avant cela l'invité de la dispute, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana. Et puis nous évoquerons aussi Jour de miel d'Eshkol Nevo et la pièce de Jonas Carlson, la pièce d'Antoine Guillot qui se joue tous les soirs en un acte. C'est la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Voltaire, José Maria de Heredia, Albert Samin, Jean Cocteau pour la série Elle, Victor Hugo, Émile Zola, Anatole France et Paul Éluard pour les ES et S, D'Alembert, Jules Verne, Albert Robida, Michel Serres pour les STT, Rien ne vous choque, interroge Libération. Les sujets des épreuves anticipées du bac de français sont tombés vendredi dernier avec, comme d'habitude, de grandes absentes, les femmes. Au moins les sujets n'ont-ils pas fait cette année l'objet des traditionnelles contestations, en français en tout cas, car pour ce qui est de l'épreuve d'anglais, une pétition a été lancée sur le site change.org pour demander à l'éducation nationale le retrait d'un texte qui, dit la pétition, relevait d'une certaine complexité au niveau du sujet et nécessitait une certaine culture, lit-on dans le Parisien. Mercredi matin, 15 000 personnes avaient déjà signé. Le document en cause est un extrait du roman d'Alice Hoffman, tiens, une auteur. The Museum of Extraordinary Things de 2014, il décrit un homme sortant de son appartement et flânant près de l'Hudson River en contemplant l'urbanisation galopante de Manhattan au début du XXe siècle. Le hic pour les pétitionnaires, c'est que les questions du texte A nous demandaient des connaissances géographiques et historiques que nous ne possédons pas tous, même si cela paraissait évident. Outre les classiques questions sur les protagonistes et leurs actions, il était en effet demandé de donner le nom de la ville où se déroule la scène et à quelle époque. Les auteurs de la pétition réclament qu'à défaut de retirer les questions, le barème de correction soit revu. Voilà ce qui se passe quand on programme le texte d'une auteure. Peut-être aurait-il fallu, comme c'est maintenant d'usage dans le pays où se déroule l'action du texte de l'épreuve, les États-Unis et New York, hein, précisera-t-on aux candidats du bac, le faire précéder ce texte d'un trigger warning. Un trigger veut dire gâchette, nous explique dans Charlie Hebdo Marie Dariussec, tiens encore une auteure, mais ça existe donc. Il s'agit d'avertir les lecteurs que tel livre risque de déclencher des idées noires et de raviver un traumatisme. La première mention officielle des triggers warnings semble être une motion adoptée le 25 février 2014 par les étudiants de l'université de Santa Barbara en Californie. Ils ont demandé aux professeurs de les prévenir quant au contenu des livres et autres supports bien en avance pour que la personne menacée par ce contenu n'ait pas à souffrir en plus de devoir quitter la classe au milieu du cours sous le regard des autres. On peut lire toute la motion sur le site de leur université. Il y a longtemps qu'au journal télévisé, on nous prévient que ce qui suit va être pénible, mais la littérature, elle est par essence pleine de bruit et de fureur, écrit Marie Dariussec. Pourtant, plusieurs universités américaines sont en train d'adopter les trigger warnings, y compris dans leur cursus de lettres. Le New York Times cite un étudiant de l'université Rutgers demandant que Gatsby le Magnifique ne soit proposé qu'après avoir averti de son contenu misogyne, grossier et violent. L'université Columbia avertit que les métamorphoses d'Ovid sont une longue série de viols. L'université Oberlin prévient que le monde s'effondre, le chef-d'œuvre de Chinua Achebe, pourrait renouveler le traumatisme de ceux qui auraient fait l'expérience du racisme, de la colonisation, de la persécution religieuse, de la violence, du suicide et autres. Ce et autres est formidable. Shakespeare, Faulkner, Dante et Homère sont farcis de et autres. La vie est salissante et on espère que l'université reste un lieu qui avertit justement qu'il y a de l'injustice et des opinions contraires dans le grand extérieur. À force de considérer comme vulnérables des pans entiers de population, les femmes, les noirs, les transgenres, les handicapés et autres, à force de percevoir ces minorités entre guillemets comme faibles et à protéger, elles sont de fait minorisées, maintenues comme mineures, comme des enfants. Verra-t-on s'étendre à tous les livres la loi sur ceux destinés à la jeunesse, qui date en France de 1949 et qui interdit d'abord de démoraliser l'enfance. Le mieux serait peut-être de s'inspirer de cet Américain anonyme qui nous apprend Télérama pour rendre la Bible plus attirante et plus facile à lire par les jeunes générations, vient d'en publier une nouvelle traduction avec des émojis. Si l'ouvrage de 3000 pages reprend l'intégralité du texte, 200 mots ont été remplacés par 80 de ces symboles nés au Japon dans les années 1990. Au Japon, justement, où le jury d'un prestigieux concours littéraire a failli attribuer le prix à une nouvelle coécrite par un humain et un robot, lit-on dans le magazine littéraire. Sans faute, le texte bénéficie d'une structure parfaite et fluide, mais présente quelques problèmes, juge le jury, notamment la description du personnage. Le robot, un algorithme créé par une équipe de chercheurs japonais, manquerait en revanche d'humour, d'émotion et d'ironie, difficile à retranscrire par une machine, ce qui n'handicape en rien pour donner un cours. À l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Soseki Natsume, considéré comme l'écrivain majeur du Japon moderne, apprend-on ainsi dans le livre hebdo, des équipes de chercheurs en intelligence artificielle de l'université de Nishogakusha à Tokyo travaillent actuellement à le faire revivre. Oui, mais sous la forme d'un robot androïde. L'université tokyoïde, qui a révélé l'information le 7 juin, a en outre annoncé que le robot sera programmé pour donner des cours de littérature dans l'établissement. 100 ans après sa mort, Soseki va nous revenir sous la forme d'un robot, se réjouit l'Asahi Shimbun, le principal quotidien nippon dans lequel il écrivait. Le visage de l'auteur de Je suis un chat ou du Pauvre cœur des hommes, tous deux édités chez Gallimard, sera fabriqué à partir du scan de son masque mortuaire. Le petit-fils de Soseki prêtera sa voix à ce robot de 130 cm de haut, présenté en position assise et qui devrait assurer son premier cours de littérature à l'université Nishogakusha en décembre 2016, d'après l'Asahi Shimbun. Peut-être même qu'il enseignera l'œuvre d'auteur féminine. Allez savoir.
Merci Antoine Guillot. Denis Martin, vous êtes inscrit, je crois, à l'université pour aller suivre ces cours de Soseki, le robot.
Oui, je suis un grand admirateur de Soseki.
Non, mais moi aussi, je trouve ça épouvantable.
C'est extraordinaire.
Ouais. Extraordinaire ou épouvantable?
Ah non, je trouve que là, ça témoigne d'une capacité d'invention qui est quand même assez... Non, c'est assez surprenant.
L'idée, oui. Mais oui, il faudrait faire des lectures à l'aveugle. Pour moi, un texte du robot.
Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais je trouve que Enfin, pourquoi passer un temps fou à inventer des choses pareilles? Ça, je ne sais pas.
Ah ben ça, heureusement qu'il y a des gens qui passent un temps fou à inventer des choses, hein, sinon non, non, on sera encore avec du Selex à faire du feu.
Hein. Il y a eu un palmarès, il n'y a pas très longtemps, de tous les chercheurs inventeurs qui avaient travaillé sur des choses totalement inutiles et inintéressantes. Ça existe aussi.
Oui, mais donc, oui. Effectivement, mais la recherche, c'est de la recherche. Il faut défendre la recherche, oui. Martin, on est d'accord.
Ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'à travers ces choses inutiles, on va peut-être découvrir, effectivement, de faire progresser des robots dans d'autres domaines. Moi, je me posais la question de savoir si, en fait, on sait vraiment, dans le bouquin qui a finalement été refusé...
La nouvelle
qui avait été coécrite par le robot et par l'écrivain, si c'était finalement peut-être l'écrivain qui n'avait pas su décrire les émotions du personnage. On ne sait pas, peut-être que le robot était meilleur.
Peut-être que l'écrivain n'avait aucune ironie, aucun humour.
Ces recherches, je les trouve très étonnantes parce qu'on ne cesse de se poser tout de suite la question de la littérature. Qu'est-ce que c'est que la littérature? Bien sûr que dans la littérature, on a absolument tout. On a des choses totalement indécentes, mais c'est fait pour ça, justement, la littérature. Ça n'est pas quelque chose d'innocent, c'est pas uniquement un passe-temps, uniquement une distraction. Enfin,
c'est pour ça que c'est dangereux, qu'il faut mettre des avertissements maintenant.
C'est le parental advisory des rap et tout.
Oui,
ça.
Parce que ça empêche la vente. Explicit lyrics.
Et il y a un terme que Antoine employait, c'est le terme d'algorithme. Et quelque chose qui est en train de se passer tout de suite que je trouve absolument étonnant, c'est que bientôt plus personne ne sera responsable de quoi que ce soit puisque les algorithmes ont fait en sorte que donc.
Moi je me plains régulièrement des feux rouges à Paris et je me dis oh quand même que fait la mairie de Paris, mais c'est un algorithme qui décide quand les feux passent au rouge ou passent au vert.
Je trouve ça formidable.
Là, c'est peut-être qu'un jour on fera l'émission avec un algorithme.
Oui. Mais c'est déjà le cas, mais enfin, il fallait pas le dire.
Nous sommes
tous des androïdes autour de cette table, donc il n'y a pas de question de genre qui se pose.
On le dit quand même très sérieusement, quoi. Sur des questions qui sont parfois des questions sérieuses.
La plupart des questions sérieuses sont gérées par des robots.
Ça évolue un petit peu cette question de l'ordinateur qui est quelque chose d'obligé comme ça. Maintenant, on maîtrise peut-être un petit peu mieux l'ordinateur. Je sais pas encore que. Enfin, l'ordinateur était censé dire une vérité. Donc, ordinateur Wikipédia, on avait la vérité. Souvent, dans Wikipédia, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, qui demandent à être comparées, vérifiées, quoi.
Mais c'est vrai qu'on demande aux algorithmes de calculer beaucoup de choses de nos vies quotidiennes. Je parlais des feux rouges, évidemment, des transports de train, voire d'avion, et les flux de toutes sortes qui sont quand même calculés par des machines qui sont quand même toujours programmées par des hommes. Ou des femmes, le bac littéraire et la présence des auteurs, auteureux.
Ben oui, à chaque fois, on dit « Ah ben non, on n'y a pas pensé ». Enfin, c'est vraiment toujours la même chose, il y a un oubli qui est pas compréhensible, mais c'est
quand même normal qu'on puisse le relever, non?
Ah oui, c'est normal.
Qu'on puisse s'en inquiéter.
Non, mais justement, c'est ce que je voulais dire.
Non, mais on est d'accord, enfin, on fait pas des fixettes politiquement correctes, c'est quand même très étrange, Daniel Martin.
Oui, il y a énormément de femmes qui ne sont pas restées dans l'histoire, qui ont disparu. En cinéma, c'est pareil. Tous les ans, au moment du Festival de Cannes, on reparle de cette fameuse femme dont peut-être je vais me tromper de nom, mais je crois pas.
Jane Campion, Palme d'Or.
Alice Guy.
Ah, Alice Guy, c'est une pionnière.
Tous les ans, au moment de Cannes, on parle de cette femme. Cette femme, quel que soit son œuvre, ne reste absolument présente nulle part dans l'histoire.
À son époque, il y en a peu qui restent présents. Hein. Les années 20 ne sont pas ceux qui sont passés
le plus
à la postérité.
Je crois qu'en littérature, regardez par exemple les années 50-60. Donc on a des grands noms dans la littérature qui sont essentiellement Sartre, Camus, etc. Enfin, ces gens-là. Mais derrière, les Guérin, les Gadène, les Hiverneau ont été passés aux oubliettes pendant très très longtemps, alors que avec le recul, la qualité littéraire, je trouve, est peut-être, je sais pas moi, les chemins de la liberté de Sartre sur un plan romanesque, je trouve ça quand même assez mauvais. Bon, même si on peut parler des idées, etc. Alors que chez Guérin et Gadène, il y a une littérature puissante. Bon, ces gens-là, on les redécouvre régulièrement, mais est-ce qu'ils sont inscrits dans la grande histoire? Je sais pas. Et je crois que pour beaucoup de femmes, malheureusement, ça a été le cas. Cette femme extraordinaire qui s'appelle Madeleine Bourdoux, avec ses nouvelles, c'est extraordinaire ce que fait cette femme. On la redécouvre tous les 10 ans, voilà.
Si on la redécouvre tous les 10 ans, c'est qu'elle s'impose toujours pas dans le paysage pour l'instant.
Je conseille absolument ce livre magnifique qui s'appelle « 6 nouvelles » de Madeleine Bourdoux. Je ne sais plus si c'est disponible, on le doit trouver en bibliothèque, qui est une véritable merveille.
Philippe Chevillier, on va aller à la bibliothèque.
Oui, on va aller à la bibliothèque tous les deux.
Bon, je ne sais pas si Eshkol est un prénom masculin ou féminin. Eshkol Nevo. Daniel Martin.
Eshkol Nevo est un homme.
Mais je ne sais pas si je vous pose la question, vous avez.
C'est quelqu'un qui a 45 ans.
Et qui vient de publier, enfin les éditions Gallimard viennent de publier Jour de miel.
Jour de miel. Et c'est le quatrième livre traduit en France. C'est un auteur que j'ai découvert tout à fait par hasard au quatrième livre. Juste avant, il a publié un autre livre qui s'appelle Neuland. Je pense avoir la bonne prononciation.
Ouais, j'imagine que vous avez préparé l'émission de toute façon.
Mais Neuland, oui, parce que c'est un peu germanique, hein, je crois, comme sonorité. Et Neuland est un livre absolument passionnant. Celui-ci aussi est extrêmement intéressant. Et c'est pareil, c'est un écrivain. On peut se poser la question à propos d'Hakan Günday. Comment il est reçu en Turquie par le pouvoir, par exemple, je n'en sais rien. Hein. Et Eshkol Nevo est quelqu'un qui est très violent sur la société israélienne, très violent. Alors quand on dit que c'est l'héritier des grands, effectivement d'Amos Oz, effectivement c'est l'héritier. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne cessent de poser la question de la nature de cet État d'Israël, du pari des pionniers, de comment on les a trahis, de comment on dévoie. Alors là, ce livre qui vient de paraître est assez étonnant parce que ça se passe dans un village qui est un peu perdu, qui est pas très loin de la frontière, c'est-à-dire qui est susceptible de recevoir quelques obus venant de l'autre côté. Et c'est un livre, je trouve, qui pose cette question des terres abandonnées, des populations abandonnées. Qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver un peu de vie? Alors là, par exemple, on dit on va faire venir des juifs russes immigrés. Donc c'est un convoi. Mais comme c'est tellement loin, on leur envoie les rebuts en fait des personnes âgées. Alors ils s'attendent à voir arriver des magnifiques femmes blondes et tout ça. Bon, elles ont été peut-être magnifiques, mais il y a longtemps. Le livre commence comme ça. Et ensuite, il y a toute une question justement de trafic entre sur la question du religieux, sur la question du symbolique, sur la question des lieux sacrés. Est-ce qu'on peut construire n'importe quoi, n'importe où? Est-ce que il faut respecter le religieux et le symbolique? Enfin, l'ensemble joue sur ces questions-là, et c'est vraiment très très violent sur la société israélienne. Et je trouve que des pays comme Israël, comme ça, qui peuvent supporter une littérature aussi violente, enfin en Autriche par exemple, on a une littérature qui est très violente, et je réfléchissais à ça et je trouve pas l'équivalent en France des gens qui attaquent la société française comme ça. On le fait pas, je sais pas pourquoi en fait.
Ça va venir.
Mais alors, moi, je recommande beaucoup, beaucoup. Depuis que j'ai découvert, je l'ai découvert dans des conversations avec des lecteurs qui me disent, ah bon, il faut lire ça, etc. Donc, c'est comme ça. Et depuis, je fais pareil, je transmets. Et effectivement, c'est un plaisir parce qu'on rencontre des lecteurs heureux. Je ne comprends pas pourquoi ce Eshkol Nevo ne s'est pas imposé plus au bout de 4 livres, donc de 5-6 années de présence en France.
Ben, ouais. Vous nous transmettez cette question et cette envie de le lire, en tout cas. Vous avez le communiqué de presse sous les yeux, donc vous avez le nom du traducteur ou de la traductrice?
Non, je n'ai pas.
Ah, c'est celui-là, vous ne l'avez pas. C'est pour ça que vous m'avez demandé avant l'émission si j'avais le nom des traducteurs et traductrices. Pour vos coups de cœur, messieurs, il faut quand même vous débrouiller un petit peu sans moi. Bon, on rajoutera ça sur le site de la dispute. Qui a traduit ce livre, Jour de miel?
Ça fait un peu cancre, hein, c'est ça?
Eshkol Nevo, c'est la fin d'année. Donc le conseil de classe est passé. Vous vous laissez aller, Daniel Martin. Bon, mais il vous sera beaucoup pardonné parce que vous faites beaucoup pour cette émission, pour la France, pour France Culture, pour la littérature. Ça paraît chez Gallimard. Philippe Chevillier, qui est un bon élève, a amené son livre.
Moi, j'ai le livre.
Donc il a le nom du traducteur, forcément, qui se situe sur la couverture, généralement, hein, chez Actes Sud.
C'est Rémi Cassin qui a traduit la pièce de Jonas Carlson.
Pièce, c'est le titre, hein, c'est pas une pièce de théâtre.
C'est pas une pièce de théâtre.
C'est pas le critique de théâtre Philippe Chevillier qui parle, c'est le critique littéraire. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, Carlson, c'est un acteur à la base qui a écrit pas mal de petites nouvelles et il a écrit un petit livre qui a eu pas mal de succès qui s'appelle La Facture, l'histoire d'un employé qui reçoit tout d'un coup des impôts extraordinaires parce qu'il a une taxe sur le bonheur. Parce que il pense effectivement qu'il a une vie assez réjouissante, enfin une petite vie comme ça. Il se demande si vraiment il doit payer aussi cher que ça. Enfin, c'est ça le point de départ de La Facture. La pièce est plus méchant comme comme texte. C'est l'histoire d'un employé supposé modèle hein, qui se retrouve dans une administration et qui pense qu'il est assez génial et que de toute façon, il va forcément monter dans cette administration et que dès qu'il voit ses collègues, il dit vraiment, ils savent pas travailler. Moi, je sais. Donc, comme il arrive avec cette espèce de mépris pour les autres, il est un peu mutique aussi. Il est détesté par tout le monde. Et donc, il est de plus en plus, finalement, quand même, il commence à ressentir cet isolement. Et un jour, il se trompe, au lieu d'aller aux toilettes, il trouve une pièce, un petit bureau, dans lequel il y a, justement, un bureau, des choses bien rangées, un ordinateur. Et il y retourne, il retrouve une paix absolument incroyable dans cette pièce. Et ça va devenir son refuge. Et il va devenir, grâce à cette pièce, il va effectivement trouver, régler tous les problèmes des dossiers, tout ça. Sauf que cette pièce n'existe que pour lui. Et que les autres employés en ont marre de le voir debout dans le couloir, fixé comme ça le mur. Et ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, il y a un basculement parce qu'on n'a pas tellement de sympathie pour ce personnage, évidemment. Mais on se rend compte à ce moment-là de toute la haine qu'il peut y avoir par rapport à la personne différente qui se comporte bizarrement dans l'entreprise et tous les efforts déployés pour essayer d'écarter cet individu qui, en plus, finit par bien travailler mieux que les autres et avoir des résultats. Donc, c'est une toute petite fable écrite dans un style assez précis. C'est assez agréable à lire. C'est très méchant.
C'est quand même assez chiant.
Ça m'a réjoui quand même.
La pièce, Jonas Carlson, traduction
de Rémi Cassaigne.
Et Antoine Guillot qui a les félicitations comme chaque année à chercher le nom du traducteur du livre d'Eschkol Névo, Jour de miel. Et c'est donc Jean-Luc Allouche.
Ah oui, bien sûr.
Ah bah alors, merci Antoine Guillot.
Le traducteur de ce grand romancier israélo-palestinien qui s'appelle Sayed Keshua. Et lui qui mériterait aussi d'être beaucoup plus lu.
Très bien, vous vous êtes bien rattrapé, grâce à Antoine. Dans quelques minutes, on parlera du roman de Tom Cooper. J'ai noté qui a traduit ce livre. Le livre s'appelle Les Maraudeurs. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute. C'est la dernière fois, évidemment, cette semaine, la comédienne et chanteuse Camélia Jordana, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci.
Camélia Jordana, déjà la fin de cette semaine avec vous. Passé trop vite, mais on va parler de livres ensemble ce soir, de livres, de textes de toute nature d'ailleurs, parce que ben voilà, c'est la poésie, c'est l'écriture des chansons, c'est la place des livres. Je sais pas, la bibliothèque à la maison, il y avait des livres. Ouais.
Non, pas trop. Non, pas trop. Non, moi, chez moi, mes parents, ils écoutaient de la musique.
Musique.
Enfin, ma mère surtout. Elle écoutait Michael, la Calas, Brassens.
Bon. La Sainte Trinité.
Voilà. Et puis, sinon, non, il y avait plus des bouquins de... Non, si, il devait y avoir un prophète de Khalil Gibran ou ce genre de trucs. Mais sinon, c'était plus des Jacques Salomé, des trucs de développement personnel et tout ça, plus que des romans. Ouais, c'était plus ça. Mais chez moi, il y a plein de romans, parce que les romans, c'est cool. J'adore lire. Alors là, je pense que le dernier bouquin que j'ai lu, ça remonte beaucoup trop. Je pense que je vais me venger cet été. Mais j'adore lire. J'adore lire, et quand je lis beaucoup. Et puis après, il y a des phases où je lis plus pendant des mois. Et puis après, il y a des mois où je ne fais que ça.
D'accord.
Et je ne vois plus les gens et tout ça. Et je leur dis, oubliez-moi, je lis.
C'est cyclique chez vous.
Ouais.
Ouais. Et ça part de quoi? Ça part d'un premier auteur et une envie? C'est des radias dans les librairies? Vous fonctionnez comment?
Oui, alors radias dans les librairies, beaucoup. Mais radias dans les librairies, le seul auteur avec qui j'ai fait... Genre, ok, toi, tu vas être mon pote. Mais vraiment. Ouais, c'est Romain Gary, évidemment. Mais sinon, non, je suis plutôt... Ouais, lire les bouquins, je trouve ça vraiment cool. Non, je trouve ça vraiment important, ça me... Puis ce qui est cool en plus avec les bouquins, comme les films, mais dans un genre très différent, puisque le format est différent et que du coup, on peut se permettre de rentrer beaucoup plus dans les choses, moi, je trouve que les bouquins sont vraiment des sacs à chansons. En fait, il y a tellement d'angles qui sont abordés que du coup, déjà, moi-même, ça m'a vachement aidé à... Même si c'est un truc qui s'apprend évidemment toute une vie et je suis loin de savoir et d'avoir la science de comment on écrit des chansons. Mais en tout cas, quand je m'y suis mise et que j'ai fini par en faire et finir des chansons, c'est un truc qui m'a vachement aidée, c'est voir le nombre d'angles qu'on pouvait aborder en fait quand on écrivait sur quelque chose. Et du coup, c'est ça qui m'a aussi, voilà, pas mal aidée en me disant, bon, bah, ok, j'ai envie d'écrire sur tel truc, j'ai une banque de sujets, ceux-là, ils pourraient plutôt aller ensemble. Là-dessus, maintenant, j'ai une banque de thèmes, ok, je vais prendre ce thème-là. Maintenant, je vais faire une banque de mots, ok, maintenant, je vais écrire un truc, puisque j'ai trouvé l'angle. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le choix de l'angle, en fait, il change tout, quoi. On peut aborder un sujet, et en fait, on peut même, je me rappelle d'une chanson que j'avais écrite qui s'appelait « Ma gueule ». Je l'ai écrite suite à une scène raciste hideuse à laquelle j'ai assisté dans le métro. Et c'était une période où je répétais une pièce de théâtre qui parlait beaucoup du racisme et tout ça. Et donc j'assiste à cette scène, je rentre chez moi, ma sœur m'envoie un lien d'un documentaire sur Kateb Yassine qui s'ouvre sur lui, qui montre le 13e arrondissement de Paris, des travailleurs algériens. Il dit « Ici, c'était des heures d'ennui, des pesants de tristesse, on pensait au pays. » Parce que oui, quand lui, il parle, ça ressemble à ça, c'est normal, il n'y a pas de souci, le médecin a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Bon, et du coup, je me rappelle que le texte, c'est le refrain, en tout cas, de « Ma gueule », c'est « Il y a des fois où je me sens seule, il y a des fois où j'ai peur de ma gueule d'étranger, ma gueule qui sait pas où elle est, ma gueule. » Et j'avais un dîner après ça, j'ai rejoint Donia, mon amie musicienne, dont le nom d'artiste est Achille d'ailleurs, j'en profite, si vous avez le temps, allez écouter, parce que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et donc je la rejoins, et je lui chante ça, je lui fais écouter sur mon vieux dictaphone, et je lui dis « Mais on comprend, j'étais un peu hyper gênée, quoi. » Elle me dit « Comment ça on comprend ?» Je lui dis « Bah je sais pas, en fait, j'ai peur que... » Enfin, j'ai une gueule un peu d'étranger, donc ça va, mais en vrai, concrètement, si c'est pas moi qui la chante, est-ce qu'on comprend ce que je dis? Ou est-ce que je passe pour une grosse facho, quoi? Mais non, mais pas du tout. Et ça, c'est vraiment le piège, en effet. On a beau avoir un sujet et avoir une idée et être sûr du sens de ce qu'on veut défendre et de ce qu'on raconte, si on se trompe d'angle, en fait, c'est complètement foiré, quoi. Et le bouquin m'a sensibilisé à ça.
Et Romain Gary, pourquoi lui?
Oh, lui, c'est mon préféré. j'ai une amie qui, pour mes 18 ou 19 ans, je pense, m'avait offert La vie devant soi, sous Émile Ajar. Donc, et oh, je sais pas, c'est pas possible d'écrire comme ça, je trouve ça dingue. En plus, ce qui est génial, c'est que du coup, sous Émile Ajar, le goujat, il se permet vachement plus de choses. Et je sais pas, c'est sublime, quoi. Donc, La vie devant soi, c'est Momo, qui est un gosse qui a entre 6 et 14 ans, qui est un enfant de femmes qui se défendent, comme il les appelle, donc d'enfants de tapins. Et il grandit dans un foyer qui est tenu par Madame Rosa, qui est une vieille dame de 70 piges, une juive tunisienne, si je dis pas de bêtises, qui est revenue des camps, qui est folle alliée, et il est avec plein de gosses. Et en fait, c'est écrit à la première personne, et il est Momo. C'est Momo qui nous raconte sa vie, son parapluie, ses copains, Banania, qui l'emmène au foyer à côté, à Belleville, parce qu'il faut qu'il voit du noir, comme dit Madame Rosa, parce que c'est le seul noir du foyer. Enfin, c'est complètement dingue. Ce roman est complètement dingue, vraiment. Et en plus, il arrivait un moment où je passais vraiment à la... Voilà, 18-19 ans, c'est le moment où on se dit « Ah là là, moi c'était le premier vote et tout. » Et je me dis « Waouh, c'est cool, on va changer le monde et tout ça. » Et le moment où il y a la vraie prise de conscience de la politique, l'autre, ce en quoi, vers quoi et pourquoi on s'engage en mon nom. Et donc, c'était assez douloureux, quoi, pour moi, de me dire, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et ce bouquin-là m'a fait vachement de bien à cet endroit-là, parce qu'il y a, du coup, ça se passe à Belleville, et il y a toutes les communautés qui vivent ensemble, et chacun a 1000 clichés les uns sur les autres, mais c'est super toléré, parce que, ouais, ok, t'es noir, et il faut que tu vois du noir, et t'aimes les bananes, et toi, t'es juif, et t'as un nez crochu, et t'aimes les camps, enfin, t'as vécu les camps, et c'est trash, mais c'est pas grave, parce qu'en même temps, t'as un tatouage. Enfin, il y a vraiment des trucs vraiment glauques dedans, et hyper trash, mais tout le monde est genre, ok. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, quand bien même, on vit ensemble, et on s'entraide, et c'est cool, quoi. Et il y a cette notion-là qui est sublimement écrite, vachement mieux, par rapport à comment je viens de raconter tout ça. Mais ouais, la façon dont ça est décrit, c'est bouleversant, vraiment. C'est un bouquin qui m'a bouleversée.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature avec Les Maraudeurs, un roman de Tom Cooper publié chez Gallimard dans une traduction de Pierre Demarty.
No more begging please, gone this time for real. Shattered like a mirror, hit by stone. Never more to be the one to fill your need. Now someone else will have to do those chores. No matter how heart I tried to keep it right. Nothing lasts forevermore. All my ways and means couldn't make it real. I'm burnt out, can't do any more. Hoping time to heal. Grace me the strength to carry on. Left shattered, beaten, broken hearted, bleeding. Not the same man I was before.
On va bien continuer à écouter Manuel Galvin, Searching Blues, mais on a tout de même envie de parler de Tom Cooper pour ce premier roman que vous avez choisi de mettre au sommaire de cette émission, Philippe Chevillier. Un premier roman, ça dit, très remarqué aux États-Unis, et puis il n'aura fallu qu'un an donc pour en découvrir la traduction française dans l'excellente collection Terre d'Amérique, dirigée par Francis Geffard. Une action qui se situe autour de Jeannette, non pas une femme, mais une petite ville du Bayou de Louisiane, une ville doublement touchée en 2005 par l'ouragan Katrina et en 2010 par la marée noire de British Petroleum. Il y a un personnage principal, Gus Lindquist, pêcheur manchot, alcoolique et accro aux antidépresseurs. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a eu recours, obsédé par un trésor corsaire, qui s'imagine évidemment retrouver un jour. Autour de Gus, il y a beaucoup de personnages, pour ce portrait de l'Amérique en souffrance, là, véritablement, avec une sorte d'entrain, on va en parler, qui compense avec la noirceur du fond, mais enfin, en tout cas, ça, c'est l'effet que ça m'a fait. Philippe Chevillier, pour commencer sur ces maraudeurs de Tom Cooper.
Alors oui, on a la littérature du sud des États-Unis. On n'a pas besoin de remonter jusqu'à Mark Twain pour trouver de très bons auteurs. Moi, j'avais découvert assez récemment, finalement, il y a quelques années, Tim Gautreau, que j'aime bien. Là, j'ai vraiment été content de lire ce livre parce que, alors, on est plongé vraiment dans l'Amérique actuelle. Est-ce qu'avec ce que vous disiez, Katrina, quand même, la marée noire, on se retrouve donc avec une communauté de pêcheurs de crevettes qui, les pauvres, les crevettes, personne n'en veut plus. Donc tout le monde erre un petit peu dans ses bayous. L'intérêt principal du livre, enfin, tout tourne autour de ces personnages qui sont, ça pourrait presque être des nouvelles, mais en fait, les personnages vont se croiser les uns avec les autres. Et c'est à la fois très noir et extrêmement drôle. Et ces personnages, moi, vous parliez de Lindquist qui est ce pêcheur manchot qui avec sa machine a détecté les métaux, essaie de trouver le trésor et il va trouver des choses d'ailleurs, hein. Mais il y a aussi il y a plein de personnages fabuleux, les frères Todd qui sont deux psychopathes qui ont planté de l'herbe dans les marais. Il y a un couple, si je puis dire, un duo qui est le père et le fils là qui est pas dans, c'est vraiment pas dans l'humour parce que en fait la mère a été emportée par l'ouragan et le fils accuse son père d'être responsable de la perte de sa mère. Donc là, c'est un petit peu plus tragique. Il y a deux losers absolument invraisemblables, Cosgrove et Hanson, qui se mettent toujours dans les mauvais coups et qui, évidemment, vont sentir l'odeur de l'herbe et du coup, ils vont se mettre dans de mauvais draps. Et puis, il y a aussi le personnage de Brady Grimes, qui est l'enfant du pays qui revient, mais lui, il revient au pays pour essayer d'acheter le silence de tous les pêcheurs du coin pour qu'ils ne se portent pas plainte contre British Petroleum, mais il y en a une poignée de dollars. Donc, tous ces personnages entrent un peu en collision dans cet univers des bayous, alors qui est très bien décrit. On a vraiment toute l'atmosphère, on a vraiment des gros crocodiles, on a des grosses araignées, je trouve qu'il y a cet humour qui traverse. Alors par moment on pense qu'on est un petit peu dans un roman noir, comme un polar, etc. Mais on parlait d'énergie tout à l'heure. Il y a une énergie dans l'écriture, une forme d'humour un peu désespéré qui porte ce livre et c'est vraiment addictif la lecture. On a envie d'aller jusqu'à la fin. Apparemment, il avait beaucoup à dire sur cette histoire, oui. Puisqu'on a coupé son livre quasiment de moitié, je crois.
Ah ouais.
Il a été obligé de le retravailler.
Il développe une série télé à partir de.
Oui, alors il y a une mini série télé parce que ça a beaucoup plu en Amérique.
Ouais. Mais est-ce qu'il va reprendre des éléments qu'il avait dans le manuscrit original?
Non, mais parce qu'il travaille déjà, c'est un roman sur le blues, je crois. D'après, j'ai lu ça dans une interview dans l'extrait.
Ça bosse déjà.
Et puis, un autre roman où il n'y aurait que des femmes. Enfin, il a envie d'écrire des romans, là, ce garçon.
Ouais, mais c'est vrai qu'on est déjà, on peut le dire, hein, comme la chaleur, le soleil et l'été sont enfin là, on est déjà dans un livre qui pourrait très bien suivre quelques personnes en vacances. Est-ce que ce sera. Bon, ce sera pas pour les vacances d'Annie Martin, parce qu'a priori, il l'a déjà lu. Est-ce que c'est votre genre de beauté, Tom Cooper? Alors, ça peut l'être.
Je trouvais le début du livre, la mort, c'est quand même du lourd, du très lourd.
Vous dites ça avec un peu d'ironie?
Oui,
sans algorithme?
Sans algorithme du tout. Je pensais à Georges Simenon classait les romans populaires en deux catégories, les romans roses, les romans bleus. Donc les romans roses, c'est les romans sentimentaux pour ces dames, et les romans bleus, c'est là où il y a du muscle, de la sueur et beaucoup d'alcool. Hein. Alors là, c'est quand même le cas au début. Et on tombe sur des personnages absolument dingues. Vous parliez de ce personnage Manchot, c'est quand même quelqu'un qui cherche aussi sa prothèse, parce que en sortant d'un bar, eh ben, il a perdu sa prothèse. Alors cette prothèse, il a payé une véritable fortune. Enfin, par rapport à c'est bien. C'est vrai que le début est quand même très, 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 très
Ça commence avec les deux frangins là, qui arrivent.
On est chez Frex. Je trouve que c'est quand même un livre qui a un charme. Sur un plan documentaire, par exemple, c'est très intéressant. La présence du français qui est là, et c'est permanent, c'est dessous, c'est juste, ça affleure en permanence. Et puis ces questions des crevettes, je ne savais pas du tout ça. Enfin, c'est vraiment une. Et puis c'est une campagne comme toutes les campagnes du monde où les gens sont là, contents d'être, mais en même temps condamnés à rester là. Et je trouve que le livre prend, moi sur ce duo père-fils, là, il me semble que c'est là où le livre prend une autre dimension et une vraie valeur, avec cet adolescent qui est obligé de travailler avec son père parce que son père n'a pas les moyens d'embaucher qui que ce soit. Et à un moment, il est dit, lui, comme tous ses copains, au fond, on les amène à abandonner l'école, abandonner les rêves d'université et tout ça. Et ce type, cet adolescent est très partagé et rêve effectivement de partir. Mais je trouve que dans toutes les campagnes du monde, il y a ça. Donc, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Ça donne une autre épaisseur, je trouve, une autre dimension. Ce duo père-fils, j'aime beaucoup, beaucoup.
Philippe Chevillier.
Oui, moi, c'est ce que je disais, l'aspect un petit peu plus grave du livre, parce que moi, il y a des moments où j'ai vraiment ri, quoi. Il y a une, je vais peut-être vous lire un tout petit passage. Il faudrait pas que j'en dévoile trop non plus, si j'arrive à le retrouver. Qui est vraiment une scène, donc on retrouve notre ami linguiste qui est désespérément, qui avait été désespérément à la recherche de son bras. Et voilà, il arrive dans la nuit dans sa chambre comme ça, il rentre chez lui. Il se relevait à grand-peine quand il entendit un grondement visqueux et reptilien dans la pièce. Son cœur cogna une fois dans sa poitrine puis s'emballa. Il se mit debout en toute hâte, se retourna et vit tout près du sol. Et vit tout près du sol une silhouette ramassée de la forme d'un kayak qui avançait vers lui d'un pas prudent. Il se dit qu'il devait être en train de rêver, il n'y avait pas d'autre explication, mais il sauta sur le lit, alluma la lampe et poussa un hurlement de castrat quand il vit ce qu'il vit, un alligator, 2 mètres, peut-être même plus, un putain d'alligator dans sa chambre. Et évidemment, c'est les frères Todd qui ont mis l'alligator dans sa chambre pour se venger de lui. Donc il y a des scènes comme ça qui sont extrêmement drôles. Et puis il y a des moments, et alors il y a un très beau passage aussi, mais c'est à la toute fin, alors je ne vais pas vous le lire, mais quand on est dans ces bayous avec tout d'un coup cette présence humaine partout, ces petites loupiottes, cette espèce de mélancolie. Et il y a aussi une dimension qui est assez belle, qui est, à un moment donné, ils sont tous en train de se perdre, les frères en train de pourchasser l'un et l'autre, etc. Et il y a une petite maison dans les bayous avec le personnage d'un vieillard qui est presque un sorcier. À un moment donné, il jette un sort. On a l'impression qu'il y a une espèce de réalisme magique à ce moment-là. C'est assez amusant. Donc, voilà, il y a beaucoup de légèreté. Mais en même temps, on sent qu'il y a une vraie fibre d'écrivain chez cet auteur, et puis un désir de raconter des histoires et de raconter l'Amérique, ce que vous disiez, l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique des campagnes qui vivote et qui a du mal à s'en sortir après Katrina, après tout ça.
Mais je trouve ça intéressant. Je ne savais pas du tout cette histoire des coupes, c'est-à-dire que le volume à l'origine était 2 fois plus important. Et c'est une des questions que je trouve intéressante parce que effectivement, c'est un livre qui a encore du travail à faire pour trouver complètement une unité, pour trouver complètement ça. Et c'est un auteur, me semble-t-il, à suivre pour cette raison, parce que s'il travaille vraiment, s'il se laisse aller, ça peut être vraiment la catastrophe. Mais s'il travaille vraiment, on peut arriver à avoir des romans assez puissant, assez tenu.
Oui, vous en savez plus sur ce Tom Cooper, je sais même pas quel âge il a, quel type de parcours il peut avoir.
Alors c'est un quadrat, hein. Il a été je crois qu'il a fait pas mal de petits métiers, genre livreur de pizza, vendeur de cigares, il a été professeur de creative writing, mais j'ai l'impression que tous les Américains étaient professeurs de creative writing quelque part.
Ça c'est extraordinaire.
Enfin, c'est une plaie ou alors c'est une façon de subvenir à leurs besoins pendant quelque temps avant de pouvoir enfin publier un livre qui a du succès, ce qui est le cas pour lui.
J'imaginais qu'il pouvait être ce jeune garçon, mais en fait ça correspond pas au niveau des dates.
Est-ce qu'il est du Bayou? C'est ça la vraie question, parce que la description est si précise.
Il ne peut être que de cette région.
Hein,
il est de cette région. Alors j'ai un peu zappé l'enfance, là, il faudrait qu'on se rapproche dedans, mais je crois qu'il est parti de chez lui à 16 ans, il me semble. Oui, on est peut-être en train de, je suis en train de reconstruire dans ma tête, si ça se trouve, il y a quand même un peu beaucoup de lui.
Oui, peut-être du jeune homme, mais c'est vrai que cette note, disons, on va dire plus sombre, tragique, en effet, de ce garçon qui rend en tout cas son père responsable de la mort de sa mère, c'est quand même évidemment un nœud du drame antique assez évident. Je trouve qu'elle est quand même assez tenue, mais il y a un équilibre assez juste.
Il y a une autre question qui est très juste, c'est effectivement cet homme qui vient avec sa mallette en disant tiens, je te donne 10 000 dollars et tu la fermes, qui est quelqu'un du coin, donc tous ces gens-là se connaissent parfaitement. Et là, on a un rapport à autre chose, c'est-à-dire à un pouvoir qui les écrase, tous ces gens-là, qui a un pouvoir financier. Mais souvenez-vous au moment de Katrina, à quel point toute cette région a été complètement délaissée, quoi. Abandonnée.
On en voit encore les traces, aujourd'hui.
Il y a une très, très belle série qui s'appelle Trémé, qui raconte tout ça. Je me souviens d'avoir parlé avec Russell Banks à l'époque, il était absolument effrayé de ce qui se passait, quoi.
Et le personnage, Philippe. D'ailleurs, le personnage du vendeur, enfin du... l'intermédiaire de British Petroleum, mais en fait
c'est le graisseur de pâtes.
Voilà, le graisseur de pâtes, sa mère est dans le coin, il retarde le moment d'aller la voir, et c'est une scène aussi qui est assez forte quand voilà. Il y a des moments comme ça où
il y a quelque chose, enfin chez ce personnage il y a quelque chose d'absolument désagréable, et il est servi d'une manière qui est plus à la limite comique.
Oui.
C'est le type, en fait, est-ce qu'il va arriver à placer ses billets, quoi.
Ça a un petit Cosan dedans lui, un petit Topaz.
Bon, ben voilà, encore beaucoup de raisons pour aller découvrir ce livre, Les Maraudeurs de Tom Cooper, publié chez Gallimard dans une traduction de Pierre Demarty.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous concluons cette émission et cette avant-dernière semaine de la saison de la dispute avec le jeu de la dispute. Comment allez-vous faire, chers auditrices, auditeurs, sans cadeau à gagner tous les soirs? Bon, je ne sais pas. Hier soir, on gagnait quoi, Antoine?
Des invitations pour un film formidable, Insiang, de Lino Broca, qui est ressorti mercredi. Je vous avais demandé à quelle religion Lino Broca s'était converti après ses études. Eh bien, figurez-vous que c'était à la religion mormone.
Ma réponse était « ça le regarde », mais ce n'était pas la bonne réponse.
Non, apparemment, ça a eu un impact sur son œuvre.
Certes, c'est certain. Ce soir, un autre film formidable en format DVD à gagner, c'est « Mad Love in New York » de Josh et Benny Safdie. C'est chez Carlotta, on l'a évoqué dans l'émission mardi soir quand nous parlions du très beau « Panic à Needle Park » dont « Mad Love in New York » est une sorte d'héritier très direct. Quelle question, Antoine?
Quel autre excellent aussi cinéaste new-yorkais a assuré la coécriture et le montage de ce film?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Daniel Martin, Philippe Chevillé, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sont sur franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez vous abonner à notre podcast Dispute Possible grâce à Séam Boutata, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Philippe Mercher, réalisation Daniel Finot. On se retrouve lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Fabienne Pascaud et René Solis. À notre affiche, Monsieur de Poursoniac, comédie-ballet de Molière et Lully. Mise en scène, Clément Hervieux-Léger, c'est au Bouffe du Nord. Et puis, Nous, rêveurs définitifs, c'est au Théâtre du Rond-Point. Je passerai un coup de fil à Perrine Morin, auteur et metteur en scène pour son spectacle. spectacle Problème sans nom, Être mère, qui sera présenté à la scène nationale de Vendeuvre, les Nancy. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix du metteur en scène Romeo Castellucci, premier invité du florilège final des invités de la dispute. Il y aura un nouveau cadeau à gagner, bien sûr. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ, par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.